Merci, les textes liturgiques pour ce quatrième dimanche de l'Avent. L'épître est tirée de saint Paul aux Corinthiens. Mes frères, qu'on nous regarde comme des ministres du Christ et des dispensateurs des ministres de Dieu. Eh bien, ce que l'on cherche dans les dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas moi-même, car quoique je ne me sente coupable de rien, je ne suis pas pour cela justifié. Mon juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs, et alors chacun recevra de Dieu le ou la louange qui lui est due. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint-Luc. La 15e année du règne de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère tétrarque de l'Iturée et du pays de la Traconitide et de la Lysanias tétrarque de la Bilène, au temps des grands prêtres Anne et Caïphe, la parole du Seigneur se fit entendre à Jean, fils de Zacharie dans le désert. Il vint dans toute la contrée du Jourdain, prêchant le baptême de pénitence pour la rémission des péchés. Ainsi qu'il est écrit au livre des oracles du prophète Isaïe, une voix retentit au désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les chemins tortueux deviendront droits, et les raboteux unis, et toute chair verra le salut de Dieu. » Veuillez vous asseoir. D'abord, je tiens à vous féliciter d'avoir le courage de braver les frimas à la boue. Pensez à tous ceux qui sont obligés de faire ça de façon décuplée. Quand j'étais au Gabon, il y avait des paroissiens qui faisaient 6 heures de route aller à pied pour venir à la messe le dimanche. Ils ne rataient pas un dimanche. Pieds nus en plus. Quand j'étais en Australie, on avait des gens qui faisaient 6-7 heures de voiture aller pour venir à la messe ce dimanche. Alors, pensons à tous ceux qui en souffrent encore plus que nous. Je tiens aussi à vous remercier pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages de charité concernant ma maman. Donc il y a eu une grosse crise d'épilepsie. Heureusement, bon Dieu a permis que j'étais là au moment où elle l'a eu. Donc on a pu appeler les pompiers tout de suite. Et finalement, elle n'a pas de séquelles neurologiques, elle n'a pas eu d'AVC, et donc elle sort d'hôpital cet après-midi. Donc merci pour tous ceux qui ont téléphoné et qui ont envoyé des messages, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Merci pour vos prières. Alors, lundi et mardi, nous avons messe à Padiès à 8h le matin. Mercredi, fête de Noël, donc fête d'obligation évidemment en France. Rappelez-vous les 4 fêtes d'obligation, la Toussaint, Noël, l'Ascension et l'Assomption. Donc il y aura 3 messes, messe de minuit, ici à minuit évidemment. Donc je serai une heure avant pour les confessions, qui sera suivie d'un petit réveillon en bas à la salle de paroisse. Deuxième messe à 10h et troisième messe ce soir à 18h. Il est évident que vous ne pouvez communier qu'à une seule de ces 3 messes pour ceux qui viennent à 2 ou 3 messes. Aussi, si vous avez assisté à la messe de minuit, vous avez déjà rempli vos obligations à la fête de Noël. Quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'on est obligé de revenir à la messe de 10h? Non. Vous pouvez venir si vous voulez. Avant, dans l'ancien temps, au Moyen-Âge, les paroissiens mettaient leur point d'honneur de venir assister aux 3 messes. Bien sûr, pas de cours de doctrine ce mercredi à cause de la fête de Noël. Pour les retraites, j'ai encore 5 places. Donc, 2 places pour la première retraite d'octobre. Et 3 places pour la deuxième retraite d'octobre. Les autres retraites sont toutes pleines. N'oubliez pas que demain, l'avant-veille de Noël, selon l'ordre du pape Pie XII, c'est jour de jeûne et d'abstinence. Donc jeûne, un repas par jour pour tous ceux qui ont entre 20 et 60 ans. Abstinence, pas de viande. Je vous demande aussi de faire attention, on en avait déjà discuté avec monsieur et madame Deschartes, donc n'oubliez pas que si nous avons la chapelle ici, c'est parce qu'ils nous ont laissé l'usage de leur terrain, donc on avait bien précisé les choses dès le départ, il y a presque 2 ans, que la cour était privée, partie chez eux. Donc il faut respecter ces choses-là, sauf bien sûr pour les handicapés, quand on est invité par eux. Donc respecter cette vie privée qu'ils ont le droit d'avoir. Merci aussi à tous ceux qui sont venus hier pour la première réunion du Tiers-Ordre. Ça s'est très bien passé. J'étais très content, au moins pour ma part. Nous ferons ça tous les mois pour tous ceux qui veulent recevoir un petit peu plus d'aide spirituelle. Donc ça, on a commencé à 9h avec les confessions, 9h30 la méditation ensemble, pour réapprendre à méditer pour ceux qui ont un peu oublié. La messe, une conférence de vie spirituelle, le chapelet, une conférence de doctrine et un repas tiré du sac au commun. Donc il y avait une dizaine de personnes, j'étais bien content. Nous essaierons de refaire ça une fois par mois. Donc la prochaine réunion du Tiers Ordre aura lieu le samedi 18 janvier. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de repas de paroisse, évidemment, pendant ce mois de décembre à cause de la fête de Noël. On remplace ça par le réveillon, le jour de Noël, après la messe de minuit. Le prochain repas de paroisse aura lieu le 28 janvier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, il nous faut faire très attention de bien garder l'esprit d'Église. Donc quel est l'esprit d'Église pendant ce temps d'avant? On peut tout résumer, j'expliquais un petit peu ça hier pendant la méditation, mais je vais reprendre un peu ce que j'ai dit. On peut tout résumer par trois petites phrases, toutes simples. Premier dimanche de l'Avent, l'Église commençait l'Avent en nous disant « Réveillez-vous ». Troisième dimanche de l'Avent, « Réjouissez-vous ». Quatrième dimanche de l'Avent, « Préparez-vous ». Donc, les trois choses sont intimement liées. D'abord, se réveiller. Rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué, se réveiller de la torpeur, se réveiller de l'acédie. Se réveiller de la paresse, surtout de la paresse spirituelle. La cédille, c'est ça, rappelez-vous, j'ai déjà expliqué tout ça, je n'y reviens pas. Cette paresse spirituelle qui entraîne le dégoût de la prière. Surveillez bien ça, mes bien chers frères. Dès que le dégoût de la prière arrive dans une âme, cela va entraîner pratiquement tout de suite le dégoût de l'étude. Pour certaines personnes, c'est inversé. C'est-à-dire qu'on commence par le dégoût de l'étude, et le dégoût de l'étude entraîne le dégoût de la prière. Malheur, malheur, malheur à nous, mes bien chers frères, si nous perdons ces deux amours. Monseigneur Lefebvre nous le disait tout le temps en séminaire, dans ma formation, tout le temps on l'entendait répéter les mêmes choses. Ne perdez jamais l'amour de la prière et l'amour de l'étude. C'est ce qui s'est passé autour des années 60, mes bien chers frères. La télévision est arrivée à remplacer l'étude. Regardez les résultats. L'immense majorité des gens ont perdu la foi. Donc, d'abord et avant toute chose, ne pas oublier ce conseil de Saint Paul. Réveillez-vous. Deuxième conseil, j'ai déjà expliqué aussi, réjouissons-nous. Pourquoi se réjouir? On se réjouit parce que notre Seigneur Jésus-Christ vient chez nous. Voilà pourquoi on se réjouit. On se réjouit parce que le mystère de l'incarnation s'est déjà développé. Le mystère de l'incarnation, c'est le 25 mars. Le 25 mars, notre Sainte Vierge Marie a répondu affirmativement à la demande de l'ange qui lui demandait si elle acceptait de devenir la mère du Sauveur. Et Dieu s'est incarné, le Sauveur du monde qui accepte de se faire gros comme une pointe d'épingle dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie, pour unir sans sa divinité à notre humanité, vrai Dieu et vrai homme. Et donc cela doit nous donner une joie extraordinaire parce que notre Seigneur Jésus-Christ arrive, il est encore dans le sein de notre Sainte Vierge Marie, et dans trois jours il va apparaître pour nous. L'accomplissement du mystère de l'incarnation. Donc nous devons avoir en nous, mes bien chers frères, une joie extraordinaire. Ça semble difficile de parler de joie par les temps qui courent. Pourtant on en a bien besoin. Et on doit avoir cette joie extraordinaire parce que justement, notre Seigneur Jésus-Christ est là. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Je vous ai déjà cité cet exemple qu'on trouve dans l'histoire de la Russie. Au temps de Staline, il avait envoyé des commissaires politiques dans un village qui était encore trop chrétien à son goût. Et donc il envoie un commissaire politique qui réunit tous les paysans, tous les coulaques du village, et il fait un grand discours pour expliquer que Dieu c'est une invention des capitalistes et qu'il n'y a pas de Dieu. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alors il y a un paysan qui lève le doigt et qui dit, mais Jésus est ressuscité. Vous n'avez rien compris, on recommence, asseyez-vous. Il recommence le discours. Et il réexplique que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu et que tout ça sont des inventions des curés. Il y a un autre paysan qui lève le doigt et qui dit, mais Jésus est ressuscité. Vous n'avez rien compris, asseyez-vous, il recommence. 4-5 fois de suite. À chaque fois, un paysan dit, mais il est ressuscité d'entre les morts. Et que le commissaire politique les a tous fait fusiller. C'était réglé. Et on a, mes bien chers frères, le devoir d'avoir cette joie extraordinaire au cœur parce que notre Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Pensez à ceux qui n'ont rien, mes bien chers frères. Encore une fois, pensez à tous ceux qui n'ont pas de messe, qui n'ont pas de sacrement, qui n'ont pas la confession, qui n'ont pas la messe, qui n'ont rien du tout. Et réjouissons-nous justement à cause de ça. Mais ne pas oublier le troisième conseil de saint Paul. Plus exactement, cette fois-ci, c'est un conseil d'Isaïe, l'Ancien Testament, dans l'Évangile du jour. Préparons les voies du Seigneur. Il ne suffit pas de se réveiller, il ne suffit pas de se réjouir, il faut maintenant se préparer sérieusement. On arrive à la porte de la crèche, dans 3 jours c'est Noël. Les voies se préparer. Je vous ai déjà expliqué ça la dernière fois, il faut réfléchir. Qu'est-ce que je dois apporter à notre Seigneur Jésus-Christ? On n'arrive pas à la crèche avec les mains vides. Chacun d'entre nous, nous avons quelque chose à apporter. Et pour découvrir ce qu'il faut apporter, il faut commencer par se taire. Deuxièmement, il faut ouvrir les oreilles de l'âme. Et demander au bon Dieu avec humilité, qu'est-ce que vous ferez plaisir de ma part, ô mon Dieu? Il ne s'agit pas de faire comme les petits-enfants qui donnent aux petits pauvres le jouet cassé qui ne marche plus. Non. Il faut donner ce qui plaît à notre Seigneur Jésus-Christ, ce que notre Seigneur Jésus-Christ attend de chacun d'entre nous. Donc c'est le premier conseil d'Isaïe. Préparons le chemin du Seigneur, rendons droit les sentiers, dit-il. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le sentier qui mène à notre âme. Notre Seigneur Jésus-Christ, pour entrer dans l'âme, il va d'abord venir à la porte de l'âme. Donc il faut qu'il puisse passer pour arriver jusqu'à la porte. S'il a le chemin qui mène à notre âme est envahi par les ronces, par les épines, comment voulez-vous qu'il passe? Ensuite, n'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas arriver et rentrer à la maison qu'un pied de biche. Il frappe à la porte. Et il demande à ce qu'on ouvre. Il ne s'agit pas qu'on ouvre la porte de 3 cm en disant « Bon Dieu, mon Dieu, je vous aime bien, mais là, vous me dérangez un peu. Est-ce que vous ne pourriez pas revenir un peu plus tard? Parce que j'ai beaucoup de choses très importantes à faire. Je vous rappellerai plus tard. » Non. On ouvre la porte toute grande. Et si on n'est pas décidé à ouvrir la porte toute grande, on va peut-être arriver à voir ce qu'il faut changer dans la maison pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse rentrer et pour que nous acceptions d'ouvrir la porte toute grande. Préparez les voies du Seigneur, c'est ça. Rendez droit les sentiers. Tous les pères d'église interprètent de la même façon. Rendez droit les sentiers, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vue directe sur notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire l'état de grâce. Première condition pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse rentrer dans notre âme, c'est évidemment l'état de grâce. L'état de grâce, c'est quoi? C'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité. C'est l'absence des péchés graves dans notre âme. Comment voulez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ soit à l'aise dans notre âme si notre âme est envahie par le péché? Et donc, profitons de ces derniers jours avant Noël, si c'est nécessaire, pour ceux qui n'ont pas encore fait, pour se confesser. Je serai à votre disposition, bien sûr. Lundi et mardi, si vous avez à vous confesser, passez-moi un coup de téléphone et je vous confesserai à Padiès, c'est l'oratoire, ou au confessionnal dans mon bureau. Donc ne nous décourageons jamais, mes bien chers frères, mais il faut impérativement rendre droit les sentiers. Quand on étudie une question en théologie avec saint Thomas d'Aquin, la première chose que fait saint Thomas, c'est ce qu'on appelle le status questionis, l'état des lieux. Où est le problème? Il faut faire la même chose avec notre âme. Quel est l'état des lieux? Quels sont les points sur lesquels je dois impérativement travailler pour me préparer sérieusement à la messe de Noël qui arrive dans 2 jours? Et Isaïe nous donne d'autres conseils. Il nous dit que toute vallée soit comblée. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, allons chercher chez les pères. C'est eux qui ont la clé d'interprétation de l'Écriture sainte. Toute vallée soit abaissée. Là, c'est la pusillanimité, pusillanima, la petite âme, c'est le manque d'espérance. quand les gens se découragent à cause de l'étendue du désastre, justement, dans notre âme, et ils n'osent même plus se regarder dans une glace parce qu'ils voient tout l'étendue du désastre, et puis ils se découragent complètement avec tous les péchés qui suivent contre l'espérance. Ce sont tous les gens qui parce que justement ils sont pas confessés parfois pendant 5, 10, 15, 20 ans, je ne sais pas, Dieu le sait, qui se découragent complètement, ils tombent dans le désespoir. Et ils vont dire, mais monsieur l'abbé, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de m'approcher de notre Seigneur. Vous connaissez quelqu'un qui est digne de s'approcher de notre Seigneur, vous? Moi, je n'en ai pas encore rencontré un seul. Personne n'est digne. Si vous attendez d'être digne pour communier, vous attendre longtemps. Il est évident que personne n'est digne de communier. L'Église n'a jamais demandé d'être digne de recevoir le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église demande simplement l'état de grâce. Le jeûne eucharistique, l'habit correspondant et l'intention droite, c'est tout. Donc si nous sommes dans le découragement, eh bien il faut combler cette vallée, c'est-à-dire pour que notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, puisse passer, qu'il ne soit pas obligé de descendre au fond de la vallée et remonter de l'autre côté. Trop fatigant. Donc il faut combler tout ça. Et Isaïe va plus loin, il nous dit que les collines et les montagnes soient abaissées. Les vallées doivent être comblées, les collines et montagnes doivent être abaissées. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les collines? Pourquoi deux termes, collines et montagnes? La montagne représente le péché mortel, la colline représente le péché véniel. Chaque fois, ce sont des obstacles. Obstacle insurmontable, la montagne, obstacle relatif, le péché véniel. Donc, s'il y a une montagne dans mon âme, il faut passer bulldozer. Bulldozer, ça fait le confessionnal. Et si c'est pas encore très propre, il y a les petites collines, et c'est tout raboteux, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sérieusement s'occuper de ça pour éliminer même les péchés véniels, par un acte de charité. Oui, mais bien, chers frères, comme il est important de bien comprendre toutes ces choses pour justement pouvoir se rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Si notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné la confession et la communion, c'est pas pour rien. Est-ce que nous réalisons, mes bien chers frères, est-ce que nous réalisons la grâce que nous avons de pouvoir nous confesser? Le bon Dieu aurait pu dire, bon, je te pardonne une fois, pas deux. À la fin de tes jours, juste avant de mourir, si possible avant, pas après, je te donne l'absolution une fois. Non. Rappelez-vous Saint-Pierre. Notre Seigneur Jésus-Christ vient d'expliquer aux apôtres le mystère de la confession. Saint-Pierre, qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, il n'a pas encore tout compris, il demande à notre Seigneur, « Combien de fois je dois pardonner aux pécheurs ? Sept fois ?» Et qu'est-ce que répond notre Seigneur ? « Non, Pierre, pas sept fois, 70 fois cette fois. » Vous vient montrer qu'il faut toujours pardonner si la personne regrette et accuse proprement ses péchés, bien sûr. Pensons, mes bien chers frères, à ceux qui n'ont pas de prêtre. Je reçois des messages, parfois ahurissants, de gens qui habitent très très loin, dans un pays où il n'y a rien du tout. Et ils regardent la messe sur Internet, ils écoutent les conférences, ils disent, monsieur l'abbé, on n'a pas de prêtre, pourquoi? Tout est en France. Pendant longtemps, avant que j'arrive en Australie, en Nouvelle-Zélande, il y avait un prêtre pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, un prêtre catholique, c'est tout. Il disait la messe traditionnelle. Il avait deux valises, il n'avait même pas de maison. Une première valise avec le matériel liturgique pour célébrer la messe, une deuxième valise avec un peu de linge personnel et quelques livres. C'est tout ce qu'il avait. Et il allait constamment de ville en ville, prévenant plusieurs jours à l'avance par téléphone. Les gens se réunissaient entre eux dans une maison particulière en général, 5-6 familles. Il arrivait, il confessait, il célébrait la messe, donnait quelques conférences, préparait au mariage. Repartait, reprenait l'avion à la ville suivante et continuait comme ça. Après, il passait la mer de Tasmanie, passait en Nouvelle-Zélande et continuait. Pensez à tout ça, mes bien chers frères. Pensez à tous ceux qui n'ont rien, encore une fois, si le bon Dieu nous a donné tout ça, il faut utiliser ses grâces. Parce que les gens qui n'ont rien, ils ont peut-être quelques excuses quand même. Ils pourront dire au bon Dieu, le jour de leur jugement, ben, j'avais pas grand-chose dans mon secteur. Mais nous, mes bien chers frères, nous qui avons pratiquement tout, est-ce qu'on va pouvoir dire cela, bon Dieu? Non, parce que le bon Dieu va exiger davantage de celui qui a plus reçu. Rappelez-vous la parabole des talents. Si vous avez reçu 5 talents, vous devez rendre plus que si vous avez reçu que 2 talents. Et celui qui a reçu 2 talents doit rendre plus à notre Seigneur que celui qui n'a reçu qu'un seul talent. Et celui qui refusait d'utiliser son talent, qui s'est contenté de le cacher dans la terre, dans un suaire, pour ne pas qu'il soit abîmé par l'humidité, et qui n'a rien fait de plus, il est condamné par notre Seigneur, parce que justement, il n'a pas utilisé son talent. Utilisons, mes bien chers frères, les grâces que nous avons. Et aplanissons encore une fois les collines, aplanissons les montagnes, comblons les vallées pour que justement nous puissions nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Autre conseil d'Isaïe, que ce qui est tortueux soit redressé. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Encore une fois, passons par les pères de l'Église. C'est l'intention droite. Est-ce que je recherche Dieu? Est-ce que je recherche Dieu? Rappelez-vous cet exemple, j'ai déjà souvent donné, la petite sœur de saint Thomas d'Aquin qui demandait à son grand frère, quelle est la première condition pour aller au ciel? Réponse de saint Thomas, le désirer. Quelle est la deuxième condition pour aller au ciel? Demanda de sa petite sœur. Le désirer. Et la troisième, le désirer. Les grands désirs. Comme ça, saint Daniel est devenu un très grand prophète, avec la grâce du bon Dieu, un homme de grand désir. Ayant ce désir, mes bien chers frères, de la sainteté. Beaucoup de gens, au lieu d'avoir le désir de la sainteté, ils ont peur de la sainteté. Ils me disent, monsieur l'abbé, moi j'ai pas envie de devenir un saint. Comprenez, un saint, c'est très compliqué. Il faut se flageller jusqu'au sang pendant des heures et des heures. Il faut manger un quart de pois chiche toutes les semaines et rien d'autre. Et c'est ça la sainteté. Mais non, c'est pas ça la sainteté. Vous avez rien compris. C'est quoi la sainteté? Faire son devoir d'État tous les jours, commencez par ça. Pour la plus grande gloire de Dieu, jour après jour, avec, ne mettez pas dernière condition, avec un grand sourire. Hein. Parce que bon Dieu ne veut pas être servi par des gens qui ont une tête de bulldog. C'est pas très gentil pour notre Seigneur. Alors, que ce qui est tortueux soit redressé. Ayons l'intention droite. L'intention, mon Dieu, je suis un pauvre gars. Je suis une pauvre fille, mais j'ai besoin de vous. Je sais que vous ne refusez jamais votre grâce à celui qui la demande avec humilité. Alors donnez-moi les grâces dont j'ai besoin pour que je puisse me préparer à cette fête de Noël de façon digne. Mais je suis un grand pécheur. Notre Seigneur Jésus-Christ a appelé les pécheurs à la grotte. Il n'est pas venu simplement pour les bien portants, il est venu pour les malades d'abord. Remarquez, on voit très bien avec les textes que nous verrons pendant la période de Noël, on voit comment même les grands pécheurs sont appelés par notre Seigneur Jésus-Christ. Et un bandit à l'époque s'appelait Hérode. C'est le gouverneur. Ben Hérode est un bandit, ben il reçoit la visite des rois mages en personne qui vont lui annoncer l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, le grand roi est là. Il va jouer les hypocrites en prétendant que lui aussi va aller adorer le roi. En fait, il veut lui tordre le cou, voilà ce qu'il veut faire. Il est invité à la grotte, et il vient pas. Les rois mages aussi étaient invités, et eux, ils sont venus. Ils ont fait des kilomètres et des kilomètres à d'autres chameaux pour trouver la grotte. Les bergers sont invités, les pauvres sont invités, tout le monde est invité. C'est pour ça que je ne peux pas supporter cet esprit moderne qui consiste à dire l'Église catholique, c'est l'Église des pauvres. Ce n'est pas l'église des pauvres, c'est l'église de tout le monde. Il n'y a pas que les pauvres qui sont appelés au ciel. Les riches aussi. Chacun avec son devoir d'État qui est différent pour chaque personne. Nous sommes tous appelés à aller au ciel. Parce qu'hors de l'église catholique, il n'y a pas de salut. Nous sommes tous appelés au ciel parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui naît dans la crèche de Bethléem le jour de Noël. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est uni avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on a tous le même Dieu, nous dit-on. On n'a pas tous le même Dieu. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Demandez aux musulmans si leur Dieu a pris la nature humaine pour se faire tout petit bébé enveloppé de l'ange par les doigts de sa mère dans la crèche de Bethléem. Vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Pensons à tout ça, mes bien chers frères. Votre conseil d'Isaïe, que ce qui est raboteux soit aplani. Là, c'est le désir de perfection qu'on demande. Dieu demande la perfection relative, pas la perfection absolue qui n'est pas possible sans des grâces tout à fait spéciales, mais une perfection au moins relative. Faisons au moins tout ce qu'on peut faire avec la grâce du bon Dieu pour que le chemin qui mène de l'extérieur à la porte soit propre, soit aplani. C'est peut-être pas parfait, il y a encore quelques petites pierres qui traînent par-ci, par-là, et peut-être encore quelques mauvaises herbes, mais est-ce qu'on a fait le possible? Tout notre possible pour que notre Seigneur Jésus-Christ ait envie de rentrer, ait envie de venir à notre âme. Encore une fois, si le chemin qui mène à notre âme est tout entièrement comblé de détritus et de saleté, comment voulez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ ait envie de venir? Donc comprenons, mes bien chers frères, toutes ces choses. Nous sommes invités à la crèche de Bethléem. Mais encore une fois, prenons les moyens pour être là à temps. Une parabole qu'on peut utiliser, je vais terminer par cela, pour expliquer ces choses-là qui est bien connue. C'est la parabole des 10 vierges. Voilà, 10 vierges qui sont invitées au festin nuptial. Elles viennent avec leur lampe à huile, dit l'Évangile. Et elles attendent à la porte du palais où l'époux doit venir. Et elles sont toutes en train d'attendre, et bien à un moment, au milieu de la nuit, le bruit retentit, l'époux arrive, préparez-vous. Alors les vierges se lèvent tout de suite, préparent leur lampe à huile pour préparer l'arrivée de l'époux. Mais l'Évangile nous dit que 5 avaient pris des précautions, avaient amené une réserve d'huile, parce qu'on ne savait pas très bien à quelle heure l'époux allait arriver. Donc elles mettent l'huile qu'elles ont gardée en réserve pour que leur lampe soit vraiment bien brillante et bien propre, et bien efficace au moment de l'arrivée de l'époux. Et les cinq vierges folles, qui elles n'ont pas pris cette précaution, elles n'ont plus d'huile, sont obligées d'aller au magasin pour acheter de l'huile. Et l'époux arrive pendant qu'elles ne sont pas là, et l'époux rentre dans la salle des noces avec les vierges sages. Et au bout d'une demi-heure ou d'une heure, les vierges folles arrivent, la porte est fermée, elles frappent à la porte. Seigneur, c'est nous, ouvrez-nous. Et il faut méditer, mes bien chers frères, la réponse terrible de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque l'époux, c'est notre Seigneur. Je ne vous connais pas. Notre Seigneur Jésus-Christ qui dit à certaines de ses créatures, je ne vous connais pas. Il faut mettre cette réponse très forte en parallèle avec l'évangile eschatologique de Saint Matthieu. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va parler à ceux au bouc, il va séparer les hommes en 2 groupes, les brebis et les boucs, les bons et les mauvais. Et qu'est-ce qu'il va dire à ceux qui sont dans l'état de péché mortel le jour de leur mort? Éloignez-vous de moi, maudit. Bien, c'est pas ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui à 2 jours de Noël. Il ouvre la porte de la grotte toute grande. Il met la Sainte Vierge Marie à la porte de la grotte pour nous aider à contempler, à venir plus facilement. Et il nous invite. Alors, préparons nos âmes, préparons nos cœurs pour que nous puissions justement, sans fausse honte, rentrer à l'intérieur de la grotte. Et là, nous verrons l'enfant Jésus couché dans la grotte, dans la crèche, sur le bois de la crèche. Nous verrons Saint Joseph, nous verrons la très sainte Vierge Marie, nous verrons tous les anges du ciel qui sont déjà là pour adorer. Nous verrons les bergers. Et nous pourrons nous aussi nous mettre à genoux et offrir à notre Seigneur Jésus-Christ, par la très sainte Vierge Marie, les petits cadeaux que nous avons préparés avant de venir dans la grotte de Bethléem. Alors demandons, mes bien chers frères, toutes ces grâces par l'intermédiaire de notre bonne Mère du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.